VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 16h à Bamako, 17h à N'Djamena. Bienvenue dans notre journal d'information. Au Sénégal, verdict dans le procès de Karim Ouad. L'ex-ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad a été condamné pour enrichissement illicite à 6 ans de prison ferme et une forte amende. Nicolas Pineau.
Cette condamnation est inférieure aux réquisitions du procureur, mais elle reste un coup dur pour les partisans de Karim Ouad. Ouad fils est condamné à payer une amende de 138 milliards de francs CFA et se voit privé de ses droits civiques. Le chef d'accusation de corruption n'a en revanche pas été retenu contre Karim Ouad. Emprisonné depuis avril 2013, l'ancien ministre du ciel et de la terre, comme l'appelaient ses détracteurs, devrait donc rater, sauf miracle, la prochaine présidentielle, alors qu'il a été désigné ce week-end par le bureau du Parti démocratique sénégalais. Karim Ouad devrait à présent se pourvoir en cassation ou espérer une grâce présidentielle. Cette dernière hypothèse est de l'ordre de la chimère, puisqu'on sait que Macky Sall a décidé d'aller jusqu'au bout en matière de bonne gouvernance. Ce verdict a été accueilli dans les pleurs par les partisans du condamné. Abdoulaye Ouad, le père et ancien président du Sénégal, avait fait le déplacement ce lundi matin à Dakar. Cette décision met fin pour le moment à cette affaire judiciaire hors norme.
Décision prévisible, vu les failles qui ont marqué l'attentat contre le musée Bardo à Tunis. Le Premier ministre a limogé 5 hauts responsables de la police. Je vous rappelle que les assaillants ont tué 21 personnes dans l'attaque la plus meurtrière en Tunisie depuis 13 ans. Michel Joseph nous en dit plus sur ces limogeages.
Une décision prise par le Premier ministre après une visite dans le quartier qui a été le théâtre de l'attentat. Les chefs de la police de Tunis et du musée du Bardo, ainsi que 3 autres agents de sécurité, ont payé le prix de défaillances flagrantes, comme l'absence d'agents de sécurité autour du musée, le plus prestigieux de Tunisie, qui plus est situé à proximité du Parlement. Les responsables limogés ont aussitôt été remplacés. 20 touristes étrangers et un policier tunisien ont été tués dans cette attaque revendiquée par le groupe État islamique. Un troisième agresseur identifié est en fuite. Interrogé sur l'avancée des investigations sur les auteurs de cette attaque, le président Essebsi a évoqué pour la première fois un troisième terroriste. Tunis se prépare malgré tout à rouvrir le musée du Bardo demain.
Au Gabon, une manifestation de fonctionnaires en grève et de lycéens du public protestant contre les conséquences sur leur scolarité du mouvement social a été dispersée aujourd'hui à Libreville par la police qui a fait usage de gaz lacrymogène. C'est ce qu'a constaté un correspondant de l'AFP. 2 manifestants ont été interpellés par les policiers et ceux-ci ont empêché les centaines de manifestants de se rendre devant l'Assemblée nationale. Avant la dispersion de la manifestation, plusieurs responsables de l'opposition, dont l'ancien président de la commission de l'Union africaine, Jean Ping, avaient apporté leur soutien aux protestataires en se joignant brièvement au cortège. Début février, à l'appel d'une vingtaine de syndicats de la fonction publique, notamment de l'éducation nationale et de la santé, les fonctionnaires sont entrés en grève pour réclamer des revalorisations salariales. Les établissements secondaires et supérieurs, donc du Gabon, sont quasiment à l'arrêt depuis plus d'un mois, faisant planer la menace d'une année blanche pour les élèves gabonais. En République démocratique du Congo, les partis de la majorité au pouvoir ont tenté dimanche, au cours d'une réunion houleuse, d'aplanir de nouvelles dissensions liées à la révision de la Constitution et à la loi électorale, selon l'AFP. Et RDC toujours, la Cour suprême de justice dira le 30 mars si elle est régulièrement saisie ou non pour juger une affaire de diffamation concernant l'opposant Vital Kamerhe, poursuivi par une élue de la majorité présidentielle. Monsieur Kamerhe avait accusé Madame Moleka d'avoir été élue en 2011 en fraudant. En République centrafricaine, au moins une vingtaine de personnes auraient été tuées samedi et dimanche dans le centre-nord du pays. C'était au cours d'une attaque attribuée aux éleveurs peuls armés. Le point avec Chérubin Dorsil.
Au total, 9 villages sur l'axe Kagabandorom-Bré ont été la cible de cette attaque. Selon des sources locales, plusieurs dizaines de combattants ex-Séléka associés aux peuls armés s'en sont pris à des villageois en représailles au vol des troupeaux de bœufs des éleveurs peuls par des anti-balaka présumés. Mauloud Moussa, porte-parole Séléka de Kagabandoro, a nié l'implication de son groupe dans ces attaques. Il a pointé du doigt des éleveurs Mbororo armés. Ce regain de violence a provoqué la fuite de plusieurs centaines de personnes à Kagabandoro Centre, précisément au site des déplacés de l'évêché. La présidente de la transition s'est rendue samedi à Ndélé, dans le nord du pays, à la tête d'une forte délégation, une manière de rassurer les populations de cette ville, un des bastions de l'ex-rébellion Séléka, qu'elles ne sont pas oubliées. Catherine Samba-Panza a aussi appelé les différentes communautés à œuvrer pour la paix et le vivre ensemble dans la région.
Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont signé lundi à Khartoum un accord de principe pour la construction du barrage éthiopien Grande Renaissance, a indiqué un correspondant de l'AFP. Les présidents égyptiens et soudanais étaient présents, ainsi que le premier ministre éthiopien, lors de la cérémonie de signature. L'Égypte, qui dépend du Nil pour s'approvisionner en eau potable et alimenter son secteur agricole, redoutait que le barrage éthiopien n'affecte le débit du fleuve. Le président égyptien a toutefois rappelé qu'il s'agit d'un accord de principe qu'il doit être complété. L'Éthiopie a commencé à détourner les eaux du Nil bleu en mai 2013 pour construire ce barrage de 6000 mégawatts qui sera le plus grand barrage d'Afrique lorsqu'il sera terminé en 2017. L'Égypte avait alors manifesté son mécontentement en se retirant de l'initiative des bassins du Nil qui regroupe les 10 États riverains du fleuve avant de la réintégrer en février 2015. L'Égypte considère que ses droits historiques sur le Nil sont garantis par deux traités datant de 1929 et 1959, lui accordant ainsi qu'au Soudan des droits sur 87% au total du débit du Nil et un droit de veto sur tout projet en amont du fleuve. Ces accords sont toutefois contestés par la majorité des autres pays du bassin du Nil, dont l'Éthiopie, qui ont conclu un traité distinct en 2010, leur permettant de développer des projets sur le fleuve sans avoir à solliciter d'abord l'accord du Caire.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
La suite de l'actualité dans le reste du monde. Coup d'envoi aujourd'hui de la visite officielle de 3 jours du président afghan à Washington. Ashraf Ghani s'est félicité du formidable partenariat entre les États-Unis et son pays, tout en remerciant les troupes et les contribuables américains pour leur sacrifice au nom de la liberté et de l'espoir. Jacques Aristide.
L'Afghanistan, un pays appauvri, marqué par près de 14 années de guerre, mais au Pentagone en Virginie ce lundi, son nouveau président Ashraf Ghani a promis que le pays cesserait d'être un fardeau pour l'Occident.
We do not now ask what the United States can do for us.
Nous ne demandons plus ce que les États-Unis peuvent faire pour nous, pour paraphraser le président Kennedy. Nous voulons dire ce que l'Afghanistan va faire pour lui-même et pour le monde. Le terrorisme est une menace, c'est le mal. Mais nous, le peuple afghan, sommes prêts à dire la vérité face à la terreur en disant « Non, vous ne pourrez jamais nous accabler, nous obliger à nous soumettre, nous allons vaincre ».
Après sa rencontre aujourd'hui avec les secrétaires d'État John Kerry et la Défense Ashton Carter, Ashraf Ghani et son chef de l'exécutif Abdullah Abdullah seront reçus demain mardi par le président Barack Obama et son numéro 2 Joe Biden. Mercredi, le dirigeant afghan prendra la parole lors d'une réunion conjointe au Congrès. Jeudi, les deux hommes se rendront à New York pour des réunions aux Nations Unies. En haut de l'agenda de cette tournée américaine du président afghan, le retrait des troupes américaines, un retrait qu'Ashraf Ghani souhaite retarder en raison des attaques terroristes perpétrées pratiquement quotidiennement sur le territoire afghan.
En Israël, Benjamin Netanyahou est assuré d'une majorité claire pour former le gouvernement. 77 parlementaires sur un total de 120 ont soutenu le Premier ministre sortant. Il apparaît probable que ce gouvernement devrait plancher plus nettement à droite que le précédent. Enfin, ici aux États-Unis, le sénateur du Texas et figure de l'ultra-conservateur Tea Party, Ted Cruz, a officialisé ce lundi sa candidature pour la présidentielle américaine de 2016, donnant le coup d'envoi dans le camp républicain de la course à la Maison-Blanche. Le conservateur, âgé de 44 ans, est né à Calgary au Canada et le premier des grands candidats républicains pressentis à se lancer dans la course à l'investiture de son parti pour 2016, devançant notamment Jeb Bush, candidat officieux et d'autres figures de la droite américaine. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans 50 minutes pour notre prochain journal. Bon après-midi à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de la...